Parti Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 16e émission de Quartier Libre au festival Jazz in Marciac. Oui, vous avez bien entendu 16 déjà. Nous sommes le 2 août et il ne reste plus que 2 jours pour profiter pleinement de cette 46e édition du festival Jazz in Marciac. Comme tous les jours depuis le 17 juillet dernier. Tous les ans, je pense que c'est un signe pour dire « Hey, on a bien envie de revenir l'année prochaine !» Donc comme tous les jours depuis le 17 juillet dernier, Quartier Libre, le média culturel qui parcourt la France à bord de son camion studio de radio, vous propose des émissions à la rencontre des artistes du festival. Aujourd'hui, au micro de Quartier Libre, nous avons l'honneur de recevoir Louis Matuté. Bonjour Louis.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. On est hyper contents parce qu'on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'artistes du bis, du chapiteau. Pardon, je suis fatiguée, on sent le 16e jour qui tombe. Donc on est hyper contents que tu sois là. Anne Passeo est venue aussi, on était ravis l'avoir, donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va démarrer donc avec toi, avec une petite interview, et puis après on te laissera vaguer à tes occupations. Donc tu viens de Suisse, tu es également originaire, en tout cas tu as des origines du Honduras, et ça a beaucoup influencé ta musique et ton histoire. Avant de faire de la musique que tu fais aujourd'hui, j'aime bien revenir à tes premiers pas. Tu as commencé la guitare, notamment avec le flamenco. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette rencontre avec la guitare, à quel âge et comment tu as démarré un peu tout ça?
J'ai commencé assez tard la guitare par rapport à plein d'autres musiciens. J'ai commencé à 13 ans, 12-13 ans. Et c'était j'étais dans une phase où j'écoutais du hip-hop et je ne voulais pas forcément faire un instrument de musique. Et c'était mes parents qui sont des grands mélomanes de jazz notamment, de musique classique et puis de rock qui m'ont un peu poussé à faire un instrument. Puis au début, je ne voulais pas.
Tu voulais chanter? Tu voulais rapper?
Non, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Et puis finalement, ils m'ont dit, bon, choisis un instrument. Et j'ai choisi ce que je trouvais à l'époque le moins nul de tous les instruments, et c'était la guitare. Du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai commencé comme tous les teenagers à faire du rock, à répéter dans les garages avec mes amis. Et puis ensuite, très rapidement, je pense que j'ai toujours une sensibilité pour les instruments acoustiques. Et donc j'ai fait des voyages un peu en Espagne, puis j'ai découvert le flamenco, j'ai découvert Paco de Lucía et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc j'ai décidé de m'y mettre. Donc j'ai accompagné pendant quelques années des danseurs, des danseuses dans des écoles de danse avec mon professeur. Et puis en fait c'est ça aussi qui m'a conduit, qui a fait en sorte que je m'intéresse au jazz, d'abord jazz manouche. J'ai fait une espèce de rapprochement de la musique de Paco et celle de Django Reinhardt quand j'étais jeune. Et puis j'ai trouvé ça incroyable. Et puis après, ensuite, j'étais vers les musiques plus électriques et puis le jazz moderne.
Oui, parce que tu mélanges pas mal de styles dans tes musiques. Et tu dis que ta famille t'a beaucoup amené à écouter du jazz, mais aussi beaucoup de musique d'Amérique latine. C'est aussi quelque chose qui t'a beaucoup bercé?
Ouais, bien sûr. J'ai grandi avec je crois que le disque que j'ai le plus écouté sur Terre, c'est un disque que tout le monde a écouté une fois dans sa vie, je pense, c'est le disque de Buena Vista Social Club.
Bien sûr.
Et je connais chaque note par cœur, chaque solo par cœur. Et puis, après, toute la musique aussi de Cuba, mais vraiment la musique plus acoustique, aussi des dérivés un peu de toute cette équipe de musiciens qui ont formé le Buena Vista. J'ai beaucoup écouté Ibrahim Ferrer, j'ai beaucoup écouté Compay Segundo, Ruben González. Et puis ça m'a toujours accompagné, c'était toujours dans un coin de ma tête. Même quand j'écoutais du rap et du hip-hop quand j'étais plus jeune, j'avais quand même ces sonorités qui traînaient dans un fond de mon cœur et de ma tête. Et puis ensuite, quand je faisais du rock aussi, à chaque fois que je retournais vers ces musiques plus acoustiques d'Amérique centrale, je prenais un plaisir fou à les entendre.
Et alors, tu as longtemps joué en quartet avec des musiciens qui te suivent encore, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, dans ce projet de Louis Matuté, Large Ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter qui sont ces musiciens du quartet et comment le quartet a nourri ce que tu fais aujourd'hui?
Les musiciens du quartet, c'est Nathan Vandenbulk à la batterie, Léon Fall au saxophone ténor et Virgile Rosley à la contrebasse. Ça, c'était vraiment le noyau dur du groupe. Et puis, on s'est rencontrés tous à la Haute École de Musique à Lausanne. En Suisse, on a de la chance d'avoir beaucoup d'écoles de musique. Il y en a 5, je crois. Et puis, comme la seule qui est francophone, c'est celle de Lausanne. Et du coup, tous les Français qui tentent le CNSM et qui le ratent viennent à Lausanne. Et on a de la chance, du coup, pour ça, parce qu'on a des excellents musiciens. Et du coup, c'est le cas de... Bon, je sais même pas s'ils ont fait, ils ont tenté le CNSM, ils se sont juste dit que Lausanne, ça avait l'air cool. Et donc, ils sont venus, donc Nathan et Léon sont venus de France pour étudier à Lausanne avec moi, et Virgile est genevois comme moi. Donc on s'est rencontrés là, on a participé à plein de projets ensemble, des projets différents, de différents musiciens, musiciennes. Et puis finalement, j'ai décidé de faire mon groupe et je les ai appelés parce qu'on s'entendait super bien. Et on a commencé comme ça. Et tout de suite, on a fait notre premier album ensemble à la Buisson. Magnifique studio tenu par Gérard de Haro, qui est un incroyable ingénieur son. Et puis on s'est dit qu'il y avait un truc qui était cool et qu'il fallait encore aller diguer dans cette direction-là avec ce son.
Et c'était quand que vous avez monté ce quartet ?
En fait, j'ai fait plusieurs groupes un petit peu au début, mais j'ai changé pas mal de musiciens. Et quand j'ai rencontré Léon, Nathan et Virgile, c'était en 2019. Et on a fait le premier album qui s'appelle How Great This World Can Be en 2020. C'est sorti en 2020.
Et pourquoi avoir eu envie d'élargir cet ensemble ? Et petit jeu de mots. Et aussi d'ajouter un peu d'autres instruments. Et comment tu as choisi les musiciens qui t'ont rejoint sur l'agrandissement de cet ensemble ?
En fait, pour moi, c'est très difficile parce que j'ai une formation de jazzman, mais j'écoute tellement de musiques différentes depuis que je suis gamin. Et du coup, je trouve que je ne me voyais pas faire que du jazz, en fait. Et bien entendu que j'avais toutes ces références en tête, des jazzmen, guitaristes américains que j'adore, avec lesquels j'ai grandi. Bill Frisell, Pat Metheny, Scofield pour les plus légendaires, mais les plus jeunes aussi, Kurt Rosenwinkel, Pedro Martins, Gilad Axelman, tous ces gens-là. Et j'avais envie, quand j'étais teenage, de jouer aussi bien qu'eux, d'être aussi à l'aise et habile sur l'instrument qu'eux. Et en fait, je me suis aussi rendu compte assez rapidement que c'était pas possible de le faire pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'on n'a pas en Suisse la scène suffisante pour pouvoir jouer comme on le souhaiterait, et on n'a pas aussi les musiciens qui pratiquent ce jazz acoustique comme on le fait à New York par exemple, pour que tu puisses entretenir et puis vraiment créer un lien et une discipline très très forte de cette musique-là. Donc je me suis dit, il faut que tu fasses ta musique à toi, qui te ressemble et qui parle aussi aux gens à côté duquel tu évolues, qui parle à la société dans laquelle tu évolues, et qui fasse écho à toutes les influences que tu as. Donc je me suis dit, bon bah fais ta musique, laisse pas tomber, mais mets de côté un petit peu ces espèces de fantasmes de jeune jazzman, de vouloir jouer des standards de jazz toute ta vie, et fais ta propre musique. Et puis du coup, faire ma propre musique, ça veut dire écrire beaucoup de choses, et écrire beaucoup de choses, c'est faire le tri de toutes les influences que tu as, et toutes les choses qui t'inspirent, et ça passe, pour ma part, ça passe par la musique électronique, ça passe par... par de la musique acoustique, de la musique folklorique, par du reggae, par du jazz, par du flamenco, par des boléros, par la chanson. Enfin, il y a plein de choses que j'aime, et en fait, j'arrivais pas à me contenter de quatre personnes. J'avais toujours envie d'avoir plus. En tout cas, si on parle de production discographique, d'être en studio. Quand j'enregistre un disque, j'ai envie qu'il y ait plein de sons. Et j'aime aussi beaucoup cette espèce d'idée d'être... un grand collectif, et puis de se réunir tous autour d'une composition, d'une musique. Et c'est ça qui m'anime vraiment quand j'enregistre un disque. Et donc c'est ça qui m'a poussé à faire ce large ensemble. Donc à la base, c'est un peu une joke maintenant, large ensemble, parce qu'en fait on pense qu'on est 15 sur scène, puis on est que 6.
Ça me fait rire.
Ça fait un peu peur aux programmateurs, programmatrices.
Ils se disent, oh là là, ils vont débarquer.
Non, c'est chaud, on va pas les engager, ils vont coûter beaucoup trop cher. Alors que ça va, on est 6, c'est beaucoup maintenant. Mais voilà. Et du coup, je me suis dit, pour l'album d'avant, qui s'appelle Our Folklore, j'avais rencontré un oudiste tunisien incroyable, qui est aussi psychiatre, avec qui j'ai beaucoup traîné pendant le Covid, qui m'a beaucoup inspiré, et j'avais envie de l'avoir sur l'album aussi. Et je me suis dit, j'ai envie d'un son de piano, de différents claviers, et puis d'un son de trompette. Donc j'ai appelé Zachary Ksik à la trompette, et Andrew Odiger, et Amin Emrahi, le oudiste, qui sont des très très bons amis, avec qui aussi on a tous, on a fait nos études ensemble, on se connaît par cœur, et on a beaucoup joué.
Voilà. Oui, vous êtes en fait amis, et c'est ça aussi qui fonctionne dans un groupe.
Exact, et c'est ça qui est bien aussi en Suisse, parce que la Suisse est petite, et les villes c'est des petits villages, et du coup à Lausanne on habitait tous, moi j'habitais à la rue du Maupas, il habitait juste à côté, à la rue des Échelettes, nanana. Puis du coup on est tout le temps, tous les soirs on traînait ensemble, soit pour aller boire des verres, soit pour écouter de la musique, soit pour aller voir des concerts, soit pour aller jammer, pour faire des répètes, donc ça nous a vraiment soudés. Quoi.
Et elle est comment la scène jazz en Suisse ?
Elle est très éclectique, il y a plein de choses différentes. Déjà, la Suisse, il y a la Suisse romande et la Suisse allemande, et la Suisse italienne aussi. Mais il y a une grosse différence de style entre la Suisse romande et la Suisse allemande, parce que à cause de la langue, tout simplement. Les Suisses allemands sont très très influencés par ce qui se fait en Allemagne. Il y a une manière de jouer du jazz qui est beaucoup plus, et de composer qui est beaucoup plus free, basé sur les textures, basé sur qui est, je dirais, un peu moins. Ils ont moins la culture de la variété française et de la pop music comme ils l'ont en France, j'ai l'impression, comme vous l'avez en France. Et du coup, ça fait des compositions qui sont très différentes. C'est très, voilà, c'est un peu concept, les Suisses allemands. C'est magnifique, il y a des incroyables musiciens. Et puis, le jazz roman, c'est plus influencé de ce qui se passe en France. Donc, c'est plus des mélodies, des chansons, voilà, des choses peut-être auxquelles les gens se reconnaissent peut-être plus facilement.
Alors, tu as parlé d'un premier album que vous avez sorti qui s'appelait How Great This World Can Be. Mais moi, j'en ai vu un autre avant qui s'appelle Télépathie, mm-hmm. Qui est sorti un petit peu avant. Tu ne le considères pas comme un premier album ?
Si, je le considère comme un premier album. Mais disons que là, comme on parlait de cet ensemble-là, c'est pour moi l'album qui a vraiment marqué le début d'une histoire, c'était How Great This World Can Be. Et puis Télépathie, c'est le premier album qu'on a enregistré avec une autre équipe qui est aussi qui m'a appris... une pété de choses, parce que c'était mon premier album. J'ai appris ce que ça signifiait de faire un album, de produire un album. C'était une bonne galère. Mais ça m'a aussi permis de faire la synthèse de où est-ce que j'en étais en tant que jeune musicien, où étaient aussi mes forces artistiques en tant que compositeur, qu'est-ce qui me plaisait dans ce que j'avais écrit, qu'est-ce qui me plaisait moins, qu'est-ce qui était bien reçu du public, qu'est-ce qui était moins. Et c'était ça. J'étais encore en étude quand je l'ai fait. C'était vraiment une bonne manière de faire le bilan de où est-ce que j'en étais. Et voilà.
Et déjà pour ce premier album, c'était que des compositions ou tu reprenais un peu des standards ?
Que des compositions, ouais. J'ai toujours écrit de la musique depuis que je suis gamin. Je pense que c'est ça aussi qui me maintient un peu en vie dans cet écosystème de la musique. C'est de me dire que je suis pas... Il y aura toujours des musiciens plus talentueux qui savent mieux écrire ou qui sont plus savants sur plein de choses ou qui jouent plus vite, j'en sais rien, plein de choses. Mais la seule chose qui te maintient un peu debout puis qui te fait sentir un peu différent, c'est l'écriture pour moi. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai très vite vu que j'avais ma patte artistique qui était originelle et que j'avais vraiment une direction esthétique qui était la mienne. Et du coup, c'est ça qui me donnait confiance en mon travail.
Et ce que tu apprécies faire, j'imagine.
Et ce que j'adore faire, ouais.
Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton processus de création, justement, quand tu composes ?
Ça dépend. Des fois, ça vient hyper rapidement. Genre, je marche dans la rue, j'ai une mélodie qui me vient, puis je rentre, puis bam, c'est dedans. Et des fois, ça prend des semaines, et c'est vraiment c'est très compliqué. Mais généralement, ce que je fais, par exemple, là, je suis en train de réfléchir à la suite déjà, et j'aime bien fonctionner comme ça. Je me fais des playlists de musique que j'adore. Donc là, je suis dans la phase où j'écoute une pété de musique.
Okay.
Et je suis là, genre, waouh, c'est génial, j'ai envie de faire ça. Et du coup, j'ai toute ma playlist de sons et d'artistes que j'adore. Et donc, j'ai ma playlist sur Spotify, là, qui s'appelle Album Inspiration. Et ensuite, je me fais des sous-playlists où je dis, je veux un son comme ça. J'aimerais bien avoir un son genre type Roda di Samba. J'aimerais bien avoir un son où j'écris Pourquoi tu raccordes. J'aimerais bien avoir un son où je veux un chœur. Où j'aimerais bien écrire un son qui sonne comme James Blake ou Bon Iver ou Tom York. Et j'aimerais bien un son qui est ta-ta-ta. Et du coup, je fonctionne comme ça. Puis ensuite, à partir de ces playlists-là, j'écris j'écris ma musique, je compose en m'inspirant. En quelque sorte, j'imite un petit peu, mais de manière un peu naïve, parce que je vais pas forcément... Des fois, j'aime bien écouter un morceau et pas relever et pas comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que si je comprends trop, après je me compare trop et je me dis merde, ça va plus. Donc j'écoute, j'ai des sons, des sonorités, je sais vaguement comment vont les changes, les changements harmoniques et puis la mélodie. Et à partir de ça, j'écris ma propre musique en fonction de ça. Et je garde une sorte de naïveté un peu enfantine quand j'écris. Et c'est ça qui me permet de me contenter de ce que j'écris. Et c'était assez intéressant parce que hier, tu me dis si je parle trop.
Non, c'est génial, on adore.
Mais hier, on parlait de ça justement avec mes amis là. Et on se disait que c'est intéressant parce que quand tu connais trop de musique aussi, quand tu es un serial digger et que tu vas trop dans dénicher des morceaux qui sont super intéressants, des fois ça te fait complètement paniquer. Et puis ça t'enlève aussi un petit peu de naïveté et de magie quand tu écris la musique parce que tu te dis putain, mais ça fait chier en fait, ça fait penser à ça, à ci, à ça, et je peux pas le faire en fait.
Parce que quand tu peux pas faire du copier-coller, quoi.
Voilà, et quand tu es un peu foncedé comme ça, tu te dis c'est cool en fait, ça marche. Et il faut garder cette espèce d'état d'esprit un petit peu stone comme ça quand tu écoutes la musique.
Et c'est quoi le morceau que tu écoutes le plus en ce moment ? Genre celui vraiment que tu te butes.
Putain, waouh. Il y en a tellement. Mais le morceau, je pense que j'ai le plus écouté cette année, pour l'instant, c'est un morceau d'un artiste brésilien qui s'appelle Paulinho da Viola. Et c'est une magnifique chanson qui s'appelle Coração Vulgar.
Okay.
Et c'est un truc voilà, avec Roda de Samba, avec des percussions traditionnelles, cavaquinho et guitare. Et je sais pas pourquoi ça me transperce le cœur à chaque fois.
Ok, on en passera un petit extrait puisqu'on fait un peu de montage. Donc yeah. C'est la joie du montage. Ouais. Tes deux derniers albums, ils ont été composés justement donc avec ton projet, on l'a dit, Louis Matute et Large Ensemble. Il y en a un qui est sorti en 2022, donc Our Folklore, quand tu en as parlé tout à l'heure. Et ce titre, il raconte un petit peu votre propre folklore. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre et ce qu'il voulait dire pour toi ?
Ouais, Our Folklore, c'était... justement, en fait, tout à l'heure, je parlais de ce qui nous donne confiance, enfin moi, ce qui me donne personnellement confiance en mon travail et ce qui me continuait d'aller de l'avant et de créer des projets, c'est justement de savoir que j'ai ma patte compositionnelle. Personnel. Et puis, et en fait, ce titre Our Folklore, c'était aussi pour parler de ça, de se dire, bon, ben, en fait, quand on est ensemble, quand on fait de la musique, quand on fait des albums, quand on donne des concerts, quand on voyage, on crée nos propres petites traditions, et artistiques en l'occurrence. Et puis, donc, si je voulais parler de ça, je veux dire qu'en fait, on tisse notre propre folklore à nous. Et le fait d'utiliser le mot qui s'appelle le mot Our, c'était pour dire que c'était quelque chose qui nous appartient. Et que c'était. Et le fait d'utiliser ce terme-là, Our, c'est quelque chose qui me donne confiance. Dire qu'on a fait quelque chose qui nous appartient. Voilà.
Complètement. Et alors, donc, t'aimes la musique brésilienne. Il y a un morceau qui a un peu influencé cette passion pour les musiques brésiliennes. C'est Alfaia. On l'écoute tout de suite.
Yeah.
Alors tu me disais, c'est le seul morceau qui est en quartet. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau justement ?
Alfaia, ouais, c'était Alfaia, c'est une percussion brésilienne en fait, et c'est des tambours brésiliens. Et puis on avait enregistré cet album à Stuttgart, et puis je me souviens qu'on avait enregistré tout en une journée ou une demi-journée, les 10 titres, non 9 titres pardon. Et puis on avait fait une énorme fête, je crois, le dernier soir. Et le lendemain, on avait encore une demi-journée pour enregistrer un morceau en quartet, du coup. Et on était tous là, en maxi hangover à ce moment-là. Et puis on avait enregistré ce morceau-là. On n'était pas sûr de le mettre sur l'album, mais on a une espèce de fraîcheur un peu presque adolescente un peu sur l'interprétation de ce morceau-là. Et puis du coup, on l'a trouvé cool, alors on l'a laissé.
Il est très cool, c'est vrai. Tu parles tout à l'heure, donc tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui t'inspirent. Moi aussi, ce que t'aimes dans le jazz, c'est l'improvisation. Ça, c'est quelque chose qui est important pour toi. Comment ça se traduit, cette improvisation? Est-ce que sur scène, il y a vraiment des grosses phases d'improvisation? Est-ce que tout est un peu quand même écrit? Est-ce que tu peux nous raconter cette part d'improvisation?
Tout est quand même relativement cadré. Ça veut dire qu'il y a toujours, on sait, quand on joue dans des festivals comme ça, par exemple, on sait quelle personne va prendre un solo à quel moment. Ensuite, il y a toujours des moments d'interplay où on ne sait pas ce qui va se passer. On laisse quand même vachement de liberté au... On se laisse vachement de liberté dans l'accompagnement et quand on fait des solos. Donc je pense que ce projet, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un joli compromis entre l'écriture et puis les solos et l'interaction. On s'embête pas parce qu'on sait qu'on peut se faire confiance parce que la machine elle tourne et que ça roule. Et en même temps, on sait qu'il y a toujours un peu de folie et que chaque concert sera différent. C'est pas comme dans un groupe de musique actuelle où tu sais exactement.
Il y a une setlist.
C'est toujours différent, bien sûr, mais tu sais que voilà, il y a une setlist qui est vraiment toujours la même. Et puis qu'après le dixième concert, ben des fois t'en as un peu marre.
Mais là, vous jamais.
Et là, nous, franchement, non.
C'est beau. Ouais. C'est beau. Donc aussi, dernier album en date qui est sorti en 2024, c'est Small Variation from the Previous Day, un album là pour le coup de 10 titres. On va écouter un extrait d'un morceau qu'on aime beaucoup, c'est Euvos des Douces. Je vois pas très bien le dire, mais dans l'idée c'est ça. Et on revient juste après. Donc en portugais, ça veut dire la voix de Dieu. Tu me l'as soufflé, j'avoue, parce que je ne parle pas portugais, vous avez pu le comprendre. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau-là ?
Ouais, c'est un morceau... Je suis très content de ce morceau, parce qu'on a une invitée incroyable qui s'appelle Brandy Junger, qui est une incroyable musicienne à la harpe. Et puis ce morceau, c'était Avos Deus, ça veut dire la voix de Dieu. Et c'est une espèce de mantra comme ça qui se répète, c'est une mélodie qui tourne, et puis on improvise autour au fur et à mesure du morceau. Et puis c'était comme pour, voilà, cette sorte de mantra pour rentrer un peu en connexion avec le divin.
Waouh, c'est beau. Et alors ce soir, qu'est-ce que vous allez proposer aux festivaliers de Jazz in Marciac?
Et ce soir, on va jouer... principalement des morceaux qui sont issus du dernier album, Small Variations from the Previous Day, et puis certains morceaux de l'avant-dernier, de Our Folklore. Voilà. Mais on a prévu un set un peu costaud ce soir.
Ça va danser ?
On va essayer de faire danser, ça serait bien, ouais. Si les gens...
se lèvent de leur chaise et dansent. Petit appel au public, dansez ce soir s'il vous plaît. Eh bien, merci beaucoup Louis d'être venu nous parler de tout ça. Ce sera à retrouver en podcast, donc merci encore de ta venue. On
merci
se dit
beaucoup.
À très vite et on se quitte en musique avec le morceau qui est Narcissus. Let's go. Alors, on poursuit cette émission avec les jeunes de Plaisance-en-Gers qui ont fait une semaine d'atelier avec nous, en plus d'avoir fait la Brigade Verte. Et vous allez voir, tous les gens sont très fans de la Brigade Verte, sont très fans des ateliers avec Quartier Libre. Et donc, ils nous proposent aujourd'hui de venir faire une restitution de ce qu'ils ont fait cette semaine, puisque vous allez voir, ils ont dégoté de beaux retours, de très beaux retours assez exceptionnels du public. On leur laisse la parole.
Bonjour et bienvenue, nous sommes les incroyables jeunes de la Brigade Verte, Lise, Lily, Sohan, Alexis, Laetitia, Maëna, Esteban, Lucas, Célian et moi-même Léna. Nous sommes les bénévoles qui nettoyons le chapiteau le matin après chaque concert.
Tandis que l'après-midi, via le stage de radio de Quartier Libre, nous arpentions les rues de Marciac munis d'un micro à la main afin d'interviewer les passants du festival Jazz in Marciac.
Nous les avons questionnés sur le jazz et bien d'autres. Certaines réponses étaient inattendues et originales. On les écoute.
Alors, parce que j'aime le jazz, j'aime la musique et ça va faire 25 ans que je viens à Marciac pour le festival. J'ai commencé par aller pendant presque 10 ans au camping du lac avec mes enfants et puis finalement, on a un peu fait des racines ici et j'ai acheté une maison ça va faire 14 ans, là en février, dans le village. Du coup, voilà, j'aime bien venir, pas seulement pendant le festival, aussi en dehors. C'est un beau village, très actif.
Waouh, top! Bravo les gars, vous faites partie des brigades. Ah ouais, ouais, bravo.
Du coup, que pensez-vous de notre région, même si vous la connaissez pas?
La région, elle est sympa. Il fait un peu chaud en ce moment. Il n'y a pas la clim. Si, à l'intérieur, mais à l'extérieur. Voilà, des fois on peut baisser la température. Mais autrement, très belle région. On y mange bien, les gens sont sympas. Et j'aime beaucoup surtout une chose ici, ce sont les brigades vertes. Parce que les brigades vertes sont des jeunes, ils sont volontaires. Ils prennent de leur temps alors que c'est des vacances, ils pourraient faire autre chose. Passer du temps sur TikTok, sur Netflix. Je sais qu'il y a un truc sympa qui vient de sortir là sur Netflix. Mais non, ils consacrent leur temps, leur énergie, leur intelligence pour rendre les lieux propres, accessibles à Jazz in Marciac. Et ça, franchement, bravo les brigades vertes. Okay. Mais je voudrais juste rajouter une chose, si vous permettez.
Oui.
Je voudrais vraiment féliciter les brigades vertes parce qu'ils font un travail incroyable. Et en plus, ils travaillent dans l'ombre, on ne les voit pas. Hein. On vient, on écoute le concert, après on s'arrache. Mais en revanche, après, il y a un boulot à faire. Quand tout le monde est parti, ils rentrent en scène et personne ne les voit. Et par contre, ils font un boulot vraiment utile et vraiment efficace et puis pour le bien de la communauté, de façon désintéressée. Et ça, je voudrais vraiment reconnaître et je voudrais vraiment saluer l'impact des Brigades Vertes sur le festival.
Ça va faire plus de 30 ans que je viens au jazz, ici.
Et pourquoi vous venez si souvent au jazz ?
Alors, parce que j'ai une affection toute particulière pour ce village médiéval, d'autant plus que mon mari a retapé, on va dire remis en état plutôt, la maison de ses grands-parents dans une rue que j'adore. Et alors, il y a outre la musique, mais il y a aussi cet investissement de ma part affectif dans la pierre, le lieu, ce lieu, un lieu d'affect, quoi.
À la suite des témoignages, on a envie de poser une question bien précise. Avec Esteban, on a eu de faire chanter les gens. Mais on s'est vite rendu compte que les personnes interviewées n'étaient pas très à l'aise.
Pour atteindre notre objectif, on a donc changé de méthode. On a commencé doucement avec quelques questions pour en venir jusqu'à celles fatidiques. Quels artistes avez-vous préférés sur le festival ? Et une fois que vous avez parlé de votre artiste préféré, vous avez mordu à l'hameçon et on a pu vous demander de chanter ou fredonner un morceau.
Et il faut dire que parfois, vous avez pris les choses très à cœur et que vos visages n'avaient pas l'air rassurés, alors que le résultat est quand même super. On écoute le résultat de ces interviews.
On pourrait vous demander de le chanter ou pas ?
Aïe, 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 aïe,
aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe, aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.
Voici Farid, et il va chantonner sa petite chanson, Farid.
Ta chanson préférée.
Pirou, pirou, yeah, yeah, yeah.
I love you, Poggy, ma bon beau bébé.
bo di de ba wa wa, bi bu de bi. I want to stay here, da di do di de, with you forever. I'd be glad.
Voilà, c'est un air qu'a joué Billie Holiday et Nina Simone. C'est Madame Turan qui a joué ça l'autre soir.
Chanter un extrait de quoi ? Il n'y a pas de paroles ici, il n'y a que de la musique.
Mais fredonner alors.
C'est du bruit.
Fredonner. Bah,
tout du bruit. Regarde, ça fredonne derrière.
Voilà, je suis la voix off de Bertrand.
Ouais, c'est ma voix off.
Bravo.
Tu as d'autres questions ?
Non, à moins que vous avez des réponses.
Moi, là, si tu poses pas des questions, j'ai pas des réponses.
Putain !
Des belles réparties, j'aime bien. Wow ! Moi, j'ai des questions.
Aïe, 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 bien, bien, bien.
Comment tu... Deux, trois.
I'm still standing, la, la, la. I'm still standing, la, la, la. I'm still standing, la la la.
La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. Souvent je m'y arrête, je donne, j'applaudis.
Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tell the seam of everyone's dreams. It's over my head.
Et je sais plus les paroles. Papa de cette
année. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, I haven't a chance.
Salut, nous on est Maïna et Laetitia, et tandis que nos camarades faisaient du micro-trottoir, on a décidé de nous intéresser au musée le plus connu de Marciac, qui est le musée du jazz, qui se situe place du Chevalier d'Antras, mais également à l'exposition de Cetto, qui se situe rue Joseph Abeillé.
Au musée du jazz, nous avons rencontré une personne qui a témoigné de son aventure en tant que bénévole à Jazz in Marciac et qui nous a également fait part de sa passion pour ce style de musique principal du festival.
Alors, je ne sais pas un métier puisque je suis bénévole au territoire du jazz dans le festival de Jim, Jazz in Marciac. Et mon activité en tant que bénévole ici, c'est d'accueillir les gens qui vont visiter le musée du jazz. Les territoires du jazz, c'est un grand musée. Avec des archives très importantes qui ont été cédées par la famille de Bill Coleman et qui vous feront découvrir l'épopée du jazz des origines à nos jours.
Qu'est-ce qui vous a entraîné à être bénévole au sein du musée du jazz ?
Alors, être bénévole à Jim, c'est l'amour de la musique, le jazz, l'amour du Gers, puisqu'on a même déménagé et on est venu habiter dans le Gers. Et puis, parce que c'est nos enfants qui étaient bénévoles avant nous. Et donc, nous, on a aimé, on a continué. On était en tant que festivalier, on est venu comme bénévole. Et c'est un vrai plaisir d'accueillir tous les festivaliers parce que je sais, j'étais de l'autre côté, donc je sais comment on est. C'est pas vraiment une exposition puisque c'est un musée tout à fait pérenne qui regroupe donc des archives et qui vous propose l'histoire du jazz des origines à nos jours en 13 îlots, c'est tout à fait scénarisé. Vous avez rien à faire, vous vous promenez avec un casque sur la tête et vous allez d'îlot en îlot, d'archive en archive. Il y a des archives sonores et télévisuelles.
On s'est également intéressé à l'art en allant voir une exposition et l'artiste de cette exposition nous a transmis sa passion à travers ses réponses.
Je suis retraité de la coiffure. Aujourd'hui, je me consacre entièrement à l'art.
Et quel est le nom de cette exposition ?
Regard sensible.
Et est-ce que vous seriez capable de nous expliquer pourquoi ce nom ?
Regard sensible, parce qu'actuellement j'ai réalisé une série sur les arbres, que je suis sensible à la nature, et aujourd'hui je trouve que quelquefois ils sont plus ou moins maltraités, et l'écologie aujourd'hui, comme c'est dans l'actualité, je me suis emparé de cette idée.
Et peut-être pour finir, un mot sur le festival.
Ah, mon sur le festival, septième année, c'est tôt. Septième année au festival de Marciac. Aujourd'hui, le festival un petit peu différent des autres années. Moins de monde sur le festival, avec des dates avancées, peut-être que ça convient là-dedans, il y a tout. Et aujourd'hui, l'actualité fait aussi que peut-être ça freine, ça freine un peu dans certains achats et le monde se petit à petit se réduit.
Pour nous, ce séjour génial réalisé par l'Espace Jeune de Plaisance se termine aujourd'hui. Nous avons adoré participer au bénévolat et pouvoir contribuer au sein de ce grand et magnifique festival de jazz. C'est également notre dernier jour suite à l'atelier Carte Libre, qui est très enrichissant et que nous avons beaucoup aimé. Suite à l'interview incroyable d'une personne du public qui a découvert la Brigade Verte avec enthousiasme, nous avons eu l'idée de faire de même avec le Quartier Libre. À l'année prochaine et bisous.
Avec France Inter, c'est la meilleure des radios.
Non, c'est Quartier Libre.
Ah, mais c'est Quartier Libre, monsieur.
Après, Quartier Libre, bien sûr. Mais bon,
bien sûr. Voilà. Sur Spotify, presque en direct.
Ouais.
Voilà, Quartier Libre, peut-être.
Eh ben, n'hésitez pas à écouter Quartier Libre, parce que
Spotify.
Bon, sur Spotify, il y a d'autres plateformes. Et en direct au Jazz et Marciac. Et...
Du coup, on vient de Quartier Libre, une petite radio présentée par le magnifique Antoine et
Agathe, la super. Vous super. Connaissez ou pas ?
Non, je connaissais pas du tout.
C'est une petite radio ambulance,
ouais.
C'est le petit camion pas loin.
Vous êtes à côté ?
Oui.
Super.
Qui se promène dans l'Occitanie et les environs pour les festivals.
Ouais, super, très bonne idée.
Il présente ce qui se passe le jour même et voilà.
Mais sur Quartier Libre, on met très bonne radio, très bien présentée, avec des gens super accueillants et des très belles questions. Donc je vous souhaite le meilleur et une très belle programmation.
Eh bien déjà, vous êtes des futurs super, journalistes. Déjà, vous avez un contact très agréable et vous êtes mignons comme tout.
Et voilà, c'est terminé. Bravo à tous, ça a été une super émission. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que quand même, c'était quand même assez exceptionnel. Et on peut le dire, il y a aussi trois des membres de ces jeunes de Plaisance qui ont fait un petit rap. Alors, ils n'ont pas trop voulu nous le faire à l'antenne. Peut-être qu'un jour, ça sortira. On ne sait pas, on verra. En tout cas, merci beaucoup à tous. Vous avez été super. C'était une très belle édition pour nous aussi. C'est votre dernier jour, donc je vous dis merci encore. Et c'est la fin de cette émission, de cette 16e émission de Quartier Libre sur les ondes de Quartier Libre. Et oui, ça c'est beau. Vous pouvez tout écouter sur Spotify et sur notre site quartier-libre.eu. Et pour terminer, en beauté, comme d'habitude, on vous passe nos témoignages. C'était ceux d'hier, c'était encore pépite. On vous laisse donc en musique, en tout cas en sonore, avec des poèmes, avec des mots doux, avec beaucoup d'amour. Et on se retrouve demain pour notre avant-dernière émission. Venez donc nombreux et c'est toujours à 13h. Allez, à demain. Ciao, bye bye. Les échos de la cabine,
la minute témoignage.
Alors, Marciac, vraiment, c'est trop bien, j'adore le jazz en plus. J'aimais bien le jazz cubain. Aussi, je suis allée voir Al Paseo, c'était vraiment trop bien. J'adore vraiment Marciac avec ma famille, les deux sœurs mon père et ma mère. Je m'amuse trop, c'est trop bien, là je suis au marché. Mais sinon, j'adore le camping et tout.
Alors nous, on est stagiaires et franchement, on s'éclate super à Marciac. Le stage de jazz est vraiment incroyable. Genre, les intervenants sont super sympas. Petite pensée à Céline et tout. Enfin, franchement, on s'éclate et ça va être incroyable. Il y a toujours plein d'endroits pour jouer et tout. Donc, juste à dire,
vive Marciac!
Oui, c'est juste pour dire que j'adorais mes enfants. Voilà, c'est tout.
Merci au très gentil festivalier moustachu qui m'apporte le journal en fin d'après-midi au territoire du jazz et on échange avec le jazz au cœur. Que de belles conversations. Merci, au revoir.
Wow, trop, trop cool le concept.
Alors ouais, moi... Du coup, je suis Célien, je suis bénévole Brigade Verte. Et quand on faisait l'atelier écriteur de cet atelier radio, j'ai trouvé ça super, le rap. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre un peu plus. Et sur aussi les difficultés qu'ils ont, les rappeurs. Bon, ben, merci, c'était un très bon atelier. J'espère que vous allez bien au moment où vous m'écoutez. Au revoir.
Quand le jazz est là, le coup de blues s'en va.
Si t'as le blues en vrac, welcome to Marciac.
Moi je pars chez moi, je vais me coucher. Voilà. Au revoir, bisous.